Chapitre 21. L'absence du petit clerc et de la cuisinière, combinée avec celle de Courteheuse et de Fauchon, leur donnait une heure de pleine liberté. Boulnois parti, la Vaupallière ferma au verrou la porte de l'étude et se précipita dans le salon où il trouva Hortense qui venait au-devant de lui, après avoir fermé de son côté les portes du jardin et de la cuisine. Enfin ! Il ouvrit les bras, mais après une première étreinte, elle se dégagea. « Nous avons à parler de choses graves, » dit-elle. Cet accueil ressemblait si peu à ceux auxquels elle l'avait habitué qu'il la regarda interloqué. « Viens là, » dit-elle en l'attirant et en s'asseyant près de lui. « Qu'as-tu ? » demanda-t-il, anxieux. « C'est notre vie qui va se décider. » L'heure est solennelle, la plus sérieuse qui ait sonné pour nous depuis que nous nous aimons. N'en perdons pas une minute. Tes lettres ne me faisaient pas prévoir. Elle lui coupa la parole. Mes lettres ne pouvaient que te parler de mon amour. J'espère qu'elles l'ont fait de façon à ce que tu sentes bien que je ne peux pas vivre sans toi, comme j'ai senti par les tiennes que tu ne peux pas vivre sans moi. Sommes-nous menacés ? Nous le sommes. Jaloux de toi, mon mari veut te renvoyer. Jaloux de moi ? Tu ne t'en doutais pas ? Je le trouvais plus brutal encore qu'à l'ordinaire, plus injuste. Mais je ne m'en inquiétais pas autrement, puisque je dois tout supporter de lui. Comment est née cette jalousie ? Je n'en sais rien. Sans doute, elle aura été provoquée par des bavardages, ceux de Boulnois peut-être, colportés, grossis. Enfin, elle existe et nous met en danger. La première fois qu'elle s'est manifestée, c'est quand j'ai passé et repassé devant l'étude pour t'avertir que notre rendez-vous était impossible. Il m'a alors fait une scène me reprochant de tourner autour de toi. La seconde, c'est le dimanche de la forêt. Celle-là a été terrible. La troisième, enfin, c'est quand il lui a parlé de ton état de souffrance. Il a cru que tu te moquais de lui et voulait savoir ce qu'il lui reste à vivre. Tu vois que ce n'est pas trop bête. S'il est à côté, il brûle cependant. Je ne me moquais pas de lui. Tu le tâtais simplement. C'est ce jour-là qu'il a décidé de te renvoyer, et cela se serait accompli si, pour l'en empêcher, je ne t'avais rendu indispensable ici. Comment ? En aggravant sa maladie. Ce n'est pas quand il se voit incapable de s'occuper de rien qu'il peut se passer de toi et te remplacer par un nouveau clerc qui ne connaîtrait ni les affaires en train, ni les clients. Il attend pour le faire d'aller mieux. Alors ? Il n'ira pas mieux. Il la regarda, effaré, frémissant. Sans détourner les yeux, elle continua d'une voix ferme. « Tu viens de reconnaître que nous ne pouvons pas vivre l'un sans l'autre. Sans toi, je meurs désespéré. Sans moi, que deviens-tu ? Le jour où il a décidé de nous séparer, il s'est condamné. Lui ou nous ? Sa vie est-elle plus précieuse que les nôtres ? Notre suicide ou sa mort ? Ne dis pas cela, il est des paroles qu'il ne faut même pas prononcer. Je ne t'en aurais rien dit si je n'avais cru que tu m'en voudrais de ne pas te faire partager les émotions de la complicité. Avons-nous jamais été plus unis qu'en ce moment ? Quel lien plus solide que celui-là ? Elle lui jeta les bras autour des épaules et le serra dans une étreinte frémissante. Les yeux noyés, emportés, exaltés par cette émotion de la complicité. Comme il restait pétrifié, elle détacha ses bras et, se reculant, elle le regarda pour comprendre. « Tu ne dis rien ?»« Je suis muet d'horreur. »« À qui la faute ? N'ai-je pas tout essayé pour ne pas en venir là ? Puisqu'il ne veut pas dormir les 3 ou 4 heures dont nous avons besoin, qu'il dorme toujours. » Te souviens-tu du jour où je crus lui avoir administré une double dose de sulfonal ? Si je m'en souviens ! Te souviens-tu aussi de ce que tu me dis, pensant que nous pouvions l'avoir tué ? Ma foi, tant mieux ! Tu admettais donc sa mort. Par accident, par hasard, indépendamment de ta volonté. Ce qui est arrivé est indépendant de ma volonté, puisque justement j'ai tout fait pour l'empêcher. Résiste-t-on à la fatalité ? D'ailleurs, souviens-toi aussi de ce que tu me dis encore ce jour-là, que quand on veut se débarrasser des gens, il faut s'y prendre avec adresse et prudence. J'ai médité tes paroles et je t'assure que je n'ai commis ni maladresse ni imprudence. Tu ne sais donc pas que rien n'est plus facile à découvrir qu'un empoisonnement par l'arsenic ? Quand on soupçonne les gens, peut-être, mais quand on ne les soupçonne pas, rien n'est plus difficile puisqu'il permet des confusions avec toutes sortes de maladies. Qui oserait nous soupçonner ? Est-ce que cette maladie subite ne conduit pas précisément au soupçon ? Un homme de son âge ne succombe pas sans qu'on cherche de quoi il est mort. Il mourra de la maladie dont il se plaint depuis quelques mois et dont il se plaindra encore un certain temps. La maladie et la mort ne seront donc pas subites. En tout cas, seront-elles étranges ? C'est justement ce qu'il faut. Sois certain que je ne veux pas plus t'entraîner dans une catastrophe que je ne veux m'y jeter moi-même. Toutes mes précautions sont prises, toutes mes combinaisons pesées. C'est à notre bonheur que je travaille. Il voulut se tourner de notre côté. Si tu t'imagines n'avoir rien à craindre de la justice, peux-tu croire qu'il en sera de même de ta conscience, de ton confesseur ? Elle lui coupa la parole en riant. Mais il est sourd, mon confesseur. Crois-tu que s'il ne l'était pas, je l'aurais gardé depuis que nous nous aimons ? Quand j'arrive au passage délicat, je n'ai qu'à baisser la voix, et comme il imagine que c'est par confusion, il m'adresse les exhortations les plus pathétiques, mais sans trop savoir quelle est ma faute. Alors, à quoi bon se confesser ? Puis-je interrompre une habitude prise ? Est-il aujourd'hui une honnête femme qui ne se confesse pas ? C'est comme si tu me demandais pourquoi je ne porte pas de tournure quand la mode est aux robes plates. Tu m'épouvantes. Comme je te prouve que nous n'avons rien à craindre de personne. Quand je vois où tu en es arrivé, c'est d'aujourd'hui que tu t'aperçois que je ne reculerai devant rien pour assurer notre bonheur. Je ne te l'ai jamais dit. Dire et faire sont deux. Pas pour moi. Ce que je dis, je le pense. Ce que je pense, je le veux. Ce que je veux, je le fais. Quand il a été question entre nous de mon veuvage, je n'ai pas cru que ce n'était que des paroles. De ton côté, tu aurais dû me croire quand je t'assurais que pour mon amour et par amour, j'étais capable de tout. Et je ne doute pas que tu m'aies cru. Si aujourd'hui tu recules devant le fait accompli, c'est que j'ai été maladroite à te le présenter. J'ai pris au cours. Ça a été mon tort. Mais je n'imaginais pas que tu m'en voudrais de t'épargner les étapes par où j'ai eu à passer. Maintenant, je sens que j'ai eu un tort plus grand encore, agir, ne rien te dire. Voilà ce que j'aurais dû. Oublie mes paroles qui, après tout, n'étaient peut-être qu'une expérience. Avec les femmes, peut-on savoir, alors qu'elles-mêmes n'ont conscience de rien ? Tu n'es mêlé à rien puisque tu ne veux pas l'être. Tu n'as la responsabilité de rien. Il est trop tard. Pourquoi trop tard ? Puisque tu ne sais pas, puisque je ne sais pas ce que je ferai demain. Tu ne sais pas ? Les sentiments que tu viens de me montrer ne peuvent-ils pas changer mes dispositions ? Si j'avais cette influence ? Ton influence est sans limite. Je n'ai jamais agi, je n'agirai jamais que pour ton bonheur. Je te l'ai prouvé dans le passé, je te le prouverai mieux encore dans l'avenir. Voilà ce qu'il faut que tu te dises, que tu crois. Cela et rien que cela. Elle lui avait pris les deux mains et tendrement, elle les lui embrassait en commençant par le bout des doigts pour s'arrêter au poignet. Il voulait réfléchir et répondre à ce qu'elle venait de dire, mais cette caresse ne lui en laissait pas la liberté. Elle l'engourdissait, le troublait, et si bien que ses idées s'envolaient. C'était elle qu'il voyait, elle seule. Le reste n'existait plus. Cette caresse l'enveloppait, le dominait. Il lui passa le bras autour de la taille et se pencha sur elle, mais elle le repoussa. « Je t'en prie » murmura-t-elle en laissant paraître une confusion qui la faisait trembler de la tête aux pieds. « Tu me repousses ? Je t'adore !» Elle se jeta sur lui et le serra dans ses bras, sans parler, suffoquée, secouée par son émotion. « Qu'as-tu ? » demanda-t-il. Elle ne répondit que par des étreintes passionnées. À la fin, levant la tête, elle lui montra un visage convulsé, les narines haletantes, les lèvres relevées, les yeux noyés de larmes. « Mais qu'as-tu ? Qu'as-tu ? » Longtemps, il la pressa sans rien tirer d'elle que des soupirs et des pleurs. Enfin, elle se décida. C'est dans les romans que les femmes mariées peuvent affirmer à leur amant que leur mari ne leur est rien, et que, si elles ne vivent pas avec ce mari comme frère et sœur, l'indifférence ou la haine les éloigne l'un de l'autre. Dans la réalité, les situations sont moins nettes, et si indifférent que le mari soit au charme de sa femme, il y a des heures où il entend user de ses droits de mari, sans qu'elle ait la liberté de lui échapper. Elle se cacha le visage dans ses deux mains, les épaules secouées par les sanglots. « Comprends-tu mon désespoir, mon bien-aimé, mon humiliation, ma honte ? Jamais je ne t'ai aimé comme je t'aime, et je ne suis pas digne de toi. » L'heure se passa dans cette crise, et ils se séparèrent seulement au moment où le petit clerc allait rentrer. La journée fut si bien remplie par le travail de l'étude pour la Vaupalière qu'il n'eut pas le temps de réfléchir. Mais le soir, après son dîner, il monta tout de suite à sa chambre et son premier soin fut de visiter deux mâles qu'il gardait dans un cabinet noir. Puis, cela fait, il écrivit à son père qui habitait Yvetot de lui chercher une place de maître clerc chez un notaire du pays de Caux, au Havre, à Dieppe ou à Fécamp. Et pour justifier son départ d'Oissel, il expliqua que Courteheuse, malade, était d'une humeur si brutale qu'on ne pouvait pas vivre avec lui.